Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. George Sand et Chopin. Ces deux noms sont associés dans notre imaginaire comme le sont Roméo et Juliette. Et pourtant, derrière la légende qui se plaît à entretenir la fable d'un amour passionné et fécond, on découvre une histoire bien triste, pour ne pas dire triviale. On organise des événements culturels à Nohant, où se trouve la maison de George Sand, comme si dans ce lieu se trouvaient quelques matières à s'inspirer, à rêver. Nohant, un paradis perdu ? Y a-t-il eu jamais là-bas un quelconque parfum de paradis ? En examinant les personnalités si différentes de Chopin et George Sand, en se rappelant sous quels augures ils se sont rencontrés, on se prend à en douter. C'est cette relation plus complexe qu'il n'y paraît que je vous propose d'explorer dans ce nouvel épisode en deux parties. Seconde partie, de l'idylle au cauchemar. En novembre 1838, Chopin et George Sand quittent Paris. Ils ont décidé de partir quelque temps à Majorque. Les biographes de Chopin ont souvent évoqué des raisons médicales à ce voyage. Le compositeur, déjà malade des poumons, aurait reçu conseil de se porter dans un climat chaud pour l'hiver. Il y a une autre raison, plus prosaïque, à cette escapade. On a vu que George Sand s'était entiché de Chopin alors que son dernier amant en date, le dramaturge Malfille, se trouvait chez elle à Nohant. Elle a fini par tout avouer au malheureux qui, fou de jalousie, se commit en harcèlement de toute espèce. Le point de non-retour fut atteint lorsqu'il se porta à Paris et attendit George Sand à la porte de son domicile armé d'un pistolet. On sait peu de choses sur la manière dont George Sand échappa au massacre, mais il est certain que sa décision de quitter Paris avait un lien direct avec cet épisode. Les nerfs de Chopin, rudement éprouvés par l'incident, nécessitaient du repos. On se transporta donc jusqu'à Majorque, endroit suffisamment éloigné pour qu'aucun jaloux ne vienne troubler l'idylle des nouveaux amants. On attendait le paradis, on trouva l'enfer. Il y eut d'abord la traversée en bateau qui rendit tout le monde malade. La pension choisie pour se loger était insalubre. Il se trouvait sur l'île une chartreuse abandonnée par ses moines qu'une décision politique avait chassée peu de temps auparavant. On prit donc cellule dans ce couvent. George Sand, en vrai disciple de Rousseau, s'exalta de la nature mirifique qui les entourait, la mer, le ciel, les oranges et les citronniers. Tout concourait à son bonheur et lui fit oublier l'hostilité des habitants qui s'offusquaient de voir des étrangers prendre possession de leurs terres sans fréquenter l'église. Notre jardin est jonché d'oranges et de citrons, les arbres en casse. Nous avons des troncs de cactus de 20 à 30 pieds de haut. La mer à une demi-lieue, un âne pour aller à la ville, des chemins inaccessibles aux visiteurs, un cimetière avec un palmier et une croix comme dans le troisième acte de Robert le Diable, des parterres de buis taillés, le tout habité par nous seulement. Une vieille femme pour nous servir et le sacristain porte-clés, intendant, jardinier, majordome, maître Jacques en un mot. J'espère que nous aurons des revenants. Si la température au cœur de l'hiver ne descend pas en dessous de 17 degrés, la pluie, elle, ne cesse pas. L'humidité va être fatale aux poumons de Chopin. Les deux amants, configuration du lieu oblige, font chambre ou plutôt cellule à part. D'autant que George Sand a tenu à venir à Majorque avec son fils Maurice. C'est en amoureuse qu'elle s'était présentée à Chopin, à Paris. C'est en mère qu'elle va se conduire à présent. Dans ses lettres, elle appelle Chopin son petit, le petit, notre petit. Elle s'inquiète de sa santé. Elle veille à ce qu'il soit le moins exposé à l'humidité ambiante. Durant les quelques 6 mois de leur voyage, Chopin va rester isolé dans l'immense chartreuse, tandis que George Sand a vide de grand air, bat la campagne avec son fils. Elle a déjà montré un an auparavant sa nature sportive lors de son voyage avec Liszt à Chamonix. Les excursions au glacier des Bossons et à la mer de glace avaient étanché sa soif de grands espaces et d'absolu. La marche, propice à la rêverie, donnait à se réconcilier avec le monde et avec Dieu. Sur les registres d'hôtel, elle avait écrit « Domicile, la nature, d'où ils viennent de Dieu, où ils vont au ciel, lieu de naissance, Europe, qualité, flâneur. » Si la nature inspire Georges Sand, elle laisse Chopin de glace. Elle, héritière de ses Nancourt, a vécu l'épanchement de son cœur dans la nature. Lui n'a rien connu que ses larmes qui tombent des yeux devant les ruines de son cœur détruit. Liszt avait écrit de lui :
il ne se sert plus de son art que pour alimenter sa propre tragédie.
Tandis que Georges Sand affronte les bourrasques sur les chemins escarpés de Val des Mosa, Chopin se morfond. Il compose une série de préludes qui sont sans doute son œuvre la plus énigmatique. Il envoie quelques lettres qui en disent long sur son état.
« Mon Julien, j'ai été malade comme un chien ces deux dernières semaines. J'avais pris froid en dépit des 18 degrés de chaleur, des roses, des orangers, des palmiers et des figuiers. Trois médecins, les plus célèbres de l'île, m'ont examiné. L'un a flairé mes crachats, l'autre a frappé pour savoir d'où je crachais. Le troisième m'a palpé en écoutant comme je crachais. Le premier a dit que j'allais crever, le deuxième que j'étais en train de crever, le dernier que j'étais crevé déjà. »
Il a beaucoup été dit que ce séjour avait nourri positivement l'inspiration du compositeur. Lui affirme au contraire que l'hiver à Majorque a nui considérablement à son ouvrage. Quant à Georges Sand, il n'en dit pas un mot. Un silence qui en dit long sur cette histoire d'amour qui pourtant n'en était qu'à ses balbutiements. Dans ses lettres du moment, la romancière parle de son protégé dans les mêmes termes affectueux et de nouveau sobriquet. Ce n'est plus seulement mon petit, c'est Chip ou Chip Chip. Durant les années suivantes, Chopin se rendra chaque été dans la maison de Georges Sand à Nohant. Il y composera ses œuvres selon le même rythme à la fois lent et régulier. A-t-il écrit là-bas, comme on l'a souvent dit, ses plus beaux chefs-d'œuvre ? La question n'a en vérité aucun sens. Chez Chopin, il n'y a que des chefs-d'œuvre. Avant de rencontrer Georges Sand, il avait déjà écrit ses deux concertos pour piano, des mazurkas, des polonaises, des nocturnes, et ses deux cahiers d'études. L'irruption dans sa vie de l'auteur de l'Elia n'a rien changé. Malade, le compositeur devait se sentir en sécurité à Nohant. Il n'y avait rien là-bas d'hostile à sa créativité. Le climat était favorable à ses poumons, le silence était partout. Tandis que Georges Sand se livre à corps perdu dans le combat politique et l'écriture de ses romans, lui passe du lit au piano et du piano au lit. Les hémophtysies, comprenez les crachats de sang, à mesure que les mois passent, se font de plus en plus nombreuses. Il demande dans ses lettres à ses amis de ne rien colporter sur son état ni sur sa vie privée. Il n'est pas rare de voir mentionner à la fin de telle ou telle lettre
« Ne dis pas aux gens que j'ai été malade, ils en feraient des commérages. »
Lui qui est allergique au ragot, il va prendre en pleine face la publication du dernier roman de celle qu'il appelle
« Ma compagne »
ou parfois même
« Mon compagnon ».
Elle vient en effet de publier son Lucrezia Floriani, dans lequel elle dresse le portrait d'un musicien qui, à l'évidence, est Chopin. Dans l'ouvrage, il est décrit comme aigre jusqu'à la méchanceté, austère, chagrin, tracassier, ennuyeux. Le trait n'échappera pas au lecteur. Pour Chopin, c'est un coup de poignard dans le dos. Georges Sand aura beau lui expliquer que non, que ça n'a rien à voir, qu'elle a écrit cela de pure imagination. L'évidence est là. Lui qui avait fait de la discrétion et de la pudeur les deux piliers de sa vie intime, a le sentiment d'être donné en pâture au tout venant. La rupture qui s'annonce entre les deux amants est-elle vraiment une rupture ? Georges Sand, qui durant 7 ans ne s'était jamais exprimé sur l'intimité de leur liaison, va, comme on dit, lâcher le morceau. « Voilà 7 ans, dit-elle en 1846, que je vis comme une vierge avec lui et tous les autres. » Le trait est venimeux. Que vient faire cette mention de « tous les autres » dans cette histoire ? Georges Sand reproche en outre à Chopin d'avoir pris le parti de sa fille Solange dans l'affaire qu'il oppose au sculpteur Klesinger. Triste destin que cette relation, d'abord placée sous la tutelle de l'idéal, entretenue au nom de l'idéal, et qui échoue dans l'ordinaire le plus lamentable. Une fois Chopin parti, elle va l'accuser de répandre des calomnies à son sujet. L'actrice Pauline Viardot, amie des deux artistes, va plus d'une fois tenter de dissiper les soupçons. Vous me demandez des nouvelles de Chopin, en voici. Sa santé décline lentement, avec des jours passables où il peut sortir en voiture et d'autres pendant lesquels il a des crachements de sang et des quintes de toux. Il ne sort plus le soir. Voilà l'exacte vérité. Il parle de vous toujours avec le plus grand respect et je persiste à affirmer qu'il n'en parle jamais autrement. En juillet 1849, Chopin commence une longue agonie. Malgré l'insistance de ses amis les plus proches, George Sand se refuse à le voir. On la supplie, elle s'obstine. Je crains de lui causer en lui écrivant une émotion plus fâcheuse que salutaire. L'aller voir, c'est ce qui est absolument impossible en ce moment et qui augmenterait, je crois, tout le mal. J'ai encore l'espérance qu'il vivra. Je l'ai vu tant de fois comme s'il était sur le point d'expirer que je ne désespère jamais de lui. Étonnante disposition d'esprit de la part de celle qui, deux jours avant cette lettre adressée à une amie, disait n'avoir pas prononcé le nom de Chopin depuis un an. Quoi qu'il en soit, en octobre de la même année, Chopin, le 17 au soir, va rendre l'âme entourée de tous ses amis. Seul George Sand, malgré les supplications de son entourage, ne se rendra pas auprès de lui. L'auteur de l'Elia donnait là un piètre exemple, elle qui affirmait pourtant qu'il n'y a pas plus beau destin que celui de se consumer pour son idéal. Autour d'elle, on se révolte. Abandonner un homme en bonne santé, d'accord, mais un homme à l'article de la mort, c'est inique. Peine perdue. George Sand, à l'automne 1849, est déjà attelé à d'autres prétendants, elle qui écrivait qu'on ne quitte un amour imparfait que lorsque l'on a trouvé un amour plus parfait. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve quant à moi bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.